Cher louve éveillé, et si on apprenait à mieux se connaître et se comprendre? Je m'appelle Gaëlle Dick, je suis coach personnel et ma mission est d'éveiller les femmes dans leur rapport à leurs émotions, leur corps et leur alimentation. Dans ce podcast, tu trouveras un espace où on réfléchit, où on se pose des questions pertinentes et où on se libère des conditionnements. Ici, j'ai à cœur de te partager mes expériences, mes observations et mes réflexions, mais aussi de répondre à vos interrogations et questionnements dont j'ai la chance de pouvoir échanger avec vous. Ici, on s'interroge, mais surtout on fait en sorte de passer à l'action, afin d'évoluer et s'éveiller lorsqu'on le désire. Ici, on revient à l'essentiel, on reconnecte avec soi, mais aussi avec les autres, et surtout on apprend ou réapprend à prendre soin de son corps et de son esprit simplement, avec humanité et curiosité. Waouh, je suis tellement contente de reprendre le chemin des podcasts. Ça fait des mois et des mois que je ne t'ai pas proposé d'épisode pour plein de raisons différentes. Et notamment si tu me suis sur les réseaux sociaux, parce que j'ai coécrit un livre. Pas n'importe quel livre, il s'appelle « Mon guide d'éveil à moi-même ». C'est, je pense, la combinaison de tous les outils qui ont pu m'aider et qui ont aussi aidé Biddy Joy, donc ma co-autrice, dans notre cheminement personnel, dans ce qui fait que nous sommes les femmes que nous sommes aujourd'hui, alors qu'on a eu un début dans la vie qui n'était pas forcément facile, très clairement, où on a dû apprendre à cultiver notre résilience, notre compassion, à donner aussi notre pardon, que ce soit à des personnes, que ce soit à nous-mêmes. Bref, c'est vraiment une petite pépite. Alors oui, je sais, je suis biaisée parce que c'est mon livre. Mais je vais te mettre le lien dans ma bio, tu vas pouvoir aller faire ton avis par toi-même. Je pense que c'est un livre qui va aider énormément de personnes. Mais du coup, ça m'a énormément occupée. On va dire de début octobre à mars à peu près, parce qu'on a signé les contrats fin septembre et on a rendu le manuscrit le 1er mars. Et j'avoue que du coup j'avais mis ce podcast un peu entre parenthèses parce que j'étais un peu perdue dans ce que je voulais t'offrir ici, dans les choses que je voulais partager. Et je t'avoue que j'étais aussi un peu perdue parce que ce livre a remis en question beaucoup de mes croyances, étant donné que, pour pas raconter de la merde, honnêtement, j'ai fait pas mal de recherches, et ces recherches, elles m'ont fait tomber un peu de haut sur certains sujets, dont un sujet que je vais te parler du coup aujourd'hui dans cet épisode de podcast, parce que c'est quelque chose auquel j'ai cru pendant du coup, pas si longtemps que ça, honnêtement, pendant peut-être 2-3 ans, mais qui m'a énormément influencée, qui m'a notamment influencée ici, dans ce podcast. Et là, je pense notamment à un de mes derniers épisodes qui s'appelle Arrête d'être une bonne fille. Et dans ce podcast, ce qui me dérange à l'heure actuelle, je ne vais pas le supprimer, je vais le laisser parce que ça fait partie de mon cheminement. Ce qui me dérange, c'est que je te propose des vérités, ou du moins je te présente certains faits, un certain sujet, alors que ce sont des informations qui, à l'heure actuelle, après recherche, ne sont pas vérifiées. Ou du moins ne sont pas validés, pardon. Et là, je pense notamment, le premier truc qui me vient, alors pas tout, hein, franchement, il y a plein de pépites, je trouve aussi, dans cet épisode de podcast, bien sûr, mais par exemple, je te parle des sociétés matriarcales, comme quoi il y a eu notamment des sociétés matriarcales, ce qui est complètement faux, après recherche. Donc voilà, petit mea culpa pour commencer, mais j'ai envie de vous dire que on n'a pas la science infuse, il faut se méfier parce que souvent on peut apprendre des choses, on les croit Et sauf que ces informations ne sont pas vérifiées. Et c'est une erreur que je n'ai pas voulu faire dans le livre. C'est-à-dire que j'ai eu une espèce de réalisation en fin d'année, début d'année, qui était la suivante. Moi, il faut savoir que mes sujets principaux, ça reste l'entraînement et la nutrition. Dans le sens où, voilà, je suis entraîneur personnel, je suis personal trainer. C'est ma formation de base. Après, je suis autodidacte dans plein de sujets, sachant que je suis une personne qui est ultra passionnée par plein de choses différentes. J'adore apprendre, je suis extrêmement curieuse, je peux éplucher un sujet complètement random de A à Z, lire des bouquins dessus et puis quelques jours après passer à autre chose parce que je suis satisfaite de la dose, enfin du moins ma soif de connaissance est satisfaite à ce moment-là et je peux faire ça avec plein de trucs différents. Mais disons que pour ce qui est de l'entraînement et la nutrition, notamment grâce à la formation que j'ai passée, ce sont des informations qui sont vérifiées, vérifiables, qui sont appuyées par la science, que je mets régulièrement à jour parce que je fais des veilles, parce que je me tiens au courant des dernières avancées, des dernières études scientifiques. Et je me suis rendu compte un jour qu'en fait, je n'appliquais pas du tout la même rigueur en ce qui concerne le développement personnel et notamment la spiritualité. Alors là, je vais faire un gros big up à une personne. Je sais pas si elle écoute mes podcasts, mais si tu passes par là, tu vas sûrement te reconnaître, qui un jour avait partagé dans sa story un podcast qui s'appelle Méta de choc et qui est un podcast qui parle notamment de métacognition, qui est le fait de penser par-dessus ses pensées et qui a comme intention de nous faire réfléchir justement sur ce que l'on pense, sur nos cheminements de pensée et sur l'origine de nos croyances, sur comment elles se construisent, etc., etc. Et cet épisode notamment que cette personne que je connais avait partagé portait sur le coaching et notamment sur le fait que c'est un Eldorado de la manipulation. Alors je vais pas te mentir que ça m'a beaucoup déclenché, que ça m'a beaucoup beaucoup fait réfléchir, ça m'a fait douter, ça m'a fait me remettre en question. Et j'avais d'ailleurs partagé une story à ce sujet, vous aviez été nombreux à me rassurer. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur le fait que dans ce livre, je voulais pas te raconter de la merde. Vraiment. Ça, c'était mon objectif principal. Je me dis, écoute, Gaïdic, t'as une responsabilité entre tes mains là, c'est le fait de faire en sorte déjà que les gens comprennent que c'est une expression de ton opinion personnelle, et une opinion personnelle, ce n'est pas une preuve. C'est-à-dire que dans ce livre, on vous parle de notre manière de voir les choses, notre manière de voir le monde. En plus, il faut savoir que je ne suis pas la seule, du coup, à écrire ce livre. C'est-à-dire que ça mêle aussi, du coup, les croyances de Billy Joy et les miennes. Et entre le moment où on a commencé à l'écrire et aujourd'hui, il y a également des choses, voilà, qui ont pas mal changé, qui ont fait leur chemin. Et je suis sûre et certaine que dans quelques années, je ne serai plus d'accord avec certaines choses que j'aurais dit. Mais j'ai envie de vous dire que, en fait, c'est sain parce que ça veut dire que je continue à évoluer et ça, c'est vraiment très très cool. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, on avait prévu d'écrire un chapitre sur la loi de l'attraction et les lois de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que je trouvais super intéressant à aborder. Voilà, la loi de l'attraction, c'est un peu mainstream maintenant. C'est-à-dire que si on parle, je sais pas, de manifester ses désirs, alors il y a quelques années, peut-être qu'on nous aurait regardé de travers. Mais maintenant, voilà, c'est presque quelque chose qui est en train de rentrer un peu dans la tête des gens, dans quelque chose d'assez commun finalement, alors que, il faut le savoir, parce que je l'ai découvert en faisant mes recherches, en me renseignant, en écoutant notamment des podcasts de cette chaîne Méta de choc, que je t'invite vraiment chaleureusement à aller découvrir parce que c'est assez édifiant, que la loi de l'attraction n'est basée sur rien. Il n'y a pas de fondement scientifique, il n'y a pas de preuves empiriques de l'existence de la loi de l'attraction. Et alors les lois de l'univers, je t'en parle même pas. Enfin si, je vais t'en parler, mais là, alors celle-ci, elle était vraiment pas mal parce que je me rappelle que j'ai dit à Billy que quand même, enfin voilà, ce serait bien de sourcer un peu, voilà, les choses qu'on raconte. Et en fait, bah j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé en ce qui concerne les origines des lois de l'univers, enfin dans un premier temps. Après voilà, je suis allée un peu plus loin. Et je me suis dit, mais c'est quand même ouf parce que on nous vend ça comme une vérité, alors qu'en fait, il n'y a aucun fondement. C'est-à-dire qu'un jour, il y a une personne qui s'est dit que, en fait, il y avait des lois qui régissaient l'univers, et que, bah voilà, en gros, grâce à son intuition, grâce, je sais pas, à des messages canalisés, ou que sais-je, que voilà, les lois, elles étaient comme ceci, elles étaient dictées ainsi, et que, en gros, enfin, voilà, c'était comme ça. Mais moi, je suis pas trop dans ce délire-là, j'avoue que je suis quand même super contente d'avoir retrouvé bah, mon esprit critique, en fait, tout simplement, parce que l'idée, c'est de remettre en question ces choses-là qui sont mises en avant, bah, comme je te dis, comme des vérités, alors qu'en fait, ce sont des croyances. Et là, je pense à cette explosion, à cet essor que l'on voit sur les réseaux sociaux en ce qui concerne du coup la spiritualité moderne, entre guillemets, voilà, tout ce qui est spiritualité New Age, etc. Et typiquement, bah, voilà, on nous vend ces choses-là comme des choses qui sont censées être normales, que en gros, si t'es pas au courant, enfin, c'est presque t'es déconnecté. Alors qu'encore une fois, je le répète et je vais souvent te le répéter, ce sont des croyances. Alors je t'annonce direct, ce podcast va être certainement un petit peu long, mais du coup, je vais me baser sur le chapitre qu'on a écrit. Et voilà, je vais essayer de pas trop lire, mais si tu m'entends un peu lire, c'est normal parce que j'ai le chapitre sous les yeux, il est vraiment cool, du coup je trouvais ça un peu dommage de passer à côté. Enfin bref. Donc, il y a énormément de choses à dire sur le sujet de la loi de l'attraction. Encore une fois, je vais te le répéter, mais il est important de rappeler que la loi de l'attraction n'a pas de fondement scientifique et qu'il n'y a pas de preuve empirique de son existence. Et pourtant, il y a des gens qui ont mené des études, qui ont mené des recherches pour faire en sorte de la prouver. Il y a notamment des instituts hein, qui sont là pour ça, qui invitent que ce soit des médiums. Des thérapeutes, voilà, n'importe qui pour montrer que leur technique fonctionne, mais jusqu'à présent, voilà, malheureusement, si ce n'est pas indiqué comme quoi c'est prouvé scientifiquement, c'est qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas vraiment de preuves. Et là, je sais que ce podcast va se te bousculer, mais s'il te plaît, reste vraiment jusqu'à la fin, c'est super important. Donc en fait, la loi de l'attraction, c'est une croyance. Et cette croyance, elle est basée sur les principes de la spiritualité New Age, c'est-à-dire qu'on va y croire ou pas. Et en fait, c'est nécessaire, à mon sens, d'en prendre vraiment conscience, parce que comme je te dis, on voit tellement de choses à ce sujet sur les réseaux qu'on peut vraiment très très vite tomber dans le dogme, dans les extrêmes, alors qu'il faut vraiment garder à l'idée que cela reste de l'ordre des croyances, et non pas d'une vérité fondamentale ou d'un secret, entre guillemets. Et là, je fais vraiment un clin d'œil à un certain livre que... Bref, je vais pas m'attarder dessus, peut-être un petit peu plus tard, mais ce livre, voilà, je pense que tu sais duquel je parle. Et vraiment, moi, ce qui me dérange encore une fois, c'est de vendre ça comme une vérité, comme quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est là. Et on peut lire des phrases, notamment comme la loi de l'attraction fonctionne toujours, qu'on y croit ou pas. Alors, en soi, pourquoi pas, mais pour ma part, je pense qu'il est nécessaire de décider consciemment ce en quoi on veut croire ou non. C'est comme si on disait la même chose pour Dieu ou pour n'importe quelle religion. Comme si en fait c'était quelque chose voilà qui qu'on ne voit pas mais qui existe. Bah en fait non, chacun ses croyances. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en Allah, il y en a qui croient en Bouddha, enfin bref. Il faut vraiment remettre ça au centre. C'est-à-dire que tu peux choisir d'y croire ou pas. L'important c'est vraiment de comprendre un petit peu ce qui se cache, ce qui s'imbrique un peu ici. Alors, j'ai envie de te dire que quand j'ai écrit le livre, j'étais encore j'étais encore dans la croyance. Et c'est pour ça en fait que j'avais très envie d'écrire ce chapitre. Après, je vais pas te mentir que j'ai vécu des expériences particulières qui sont venues renforcer cette croyance. Mais aujourd'hui, elle est vraiment en doute, pour ma part, chez moi. Parce que je pars du principe à présent que mes expériences personnelles ne sont pas des preuves. Et ça demande beaucoup d'humilité en fait hein, pour se dire ça parce que souvent, alors moi je suis quelqu'un qui adore le débat, je suis sur les réseaux sociaux et puis on va dire que les réseaux sociaux ça reste un bon endroit pour débattre. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple, je sais pas, sur Facebook, alors Facebook c'est l'Eldorado du débat, mais bon malheureusement c'est parfois pas très intelligent, mais bon bref. Ou justement, lorsque l'on dit ou qu'on souligne à des personnes que ce qu'elles racontent n'est pas justifié, n'est pas prouvé, il va toujours y avoir quelqu'un pour dire comme quoi que la science n'explique pas tout. Et ça, je suis complètement d'accord. Par contre, faut pas oublier quand même que bah, il y a des gens dont c'est le métier, qui sont quand même payés à faire ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que la science n'a pas cherché à en trouver, notamment. Et que s'il y a eu 50 études qui ont montré qu'en fait, il n'y avait rien, bah, c'est pas pour autant qu'il y a quelque chose, en fait. Enfin, bref, je sais pas. C'est toujours un petit peu compliqué et sensible ce genre de sujet parce qu'on touche vraiment à des croyances très très profondes. Donc j'ai envie de te dire que pour ma part, il y a une partie de moi qui y croit. Parce que il y a mon expérience personnelle et j'ai l'autre partie de moi qui est mon côté rationnel et critique, qui lui sait très bien que voilà, malheureusement, il n'y a pas vraiment de preuves. Enfin bref. Toujours est-il que moi j'ai cherché des sources, des études concernant les lois de l'univers ou encore la loi de l'attraction. Et il se trouve que la plupart des informations trouvées expliquent que ces lois existent depuis la nuit des temps. C'est super vague quand même, on est d'accord. Donc il n'existe pas de source fiable, alors ça appartient vraiment à tout un chacun d'interpréter ces lois. Et en fait, il existe deux livres qui semblent, selon mes recherches, être à la base en fait de ces lois, ou du moins qui reprennent du coup des connaissances soi-disant ancestrales. Donc on retrouve en Le Kybalion qui a été publié en 1908 et en 1923 La science de l'être par le baron Eugène Fersen. Donc maintenant je vais te parler un petit peu du livre justement de Monsieur Fersen qui est du coup un peu la bible de base des croyances New Age. Mais avant de te parler de ça, le New Age c'est quoi? Alors, ce sont des courants de pensée. Et selon Wikipédia, c'est, entre guillemets, un courant spirituel occidental des 20e siècle et 21e siècle, caractérisé par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Je referme les guillemets. Là, je vais te donner mon analyse personnelle. En gros, la spiritualité New Age, c'est un peu comme un buffet à volonté. C'est-à-dire que, y a plein de croyances différentes et on pioche dans celles qui nous arrangent le plus. Donc ça peut être l'astrologie, la cartomancie, la médiumnité, le reiki, les soins énergétiques, peu importe lesquels. Et bref, on mélange un petit peu tout ça et puis voilà, en fait. Après, on peut l'utiliser bien sûr comme on veut, hein, mais toujours est-il que l'aspect éclectique, oui, je le ressens à fond parce que finalement, tout le monde y va un petit peu de son interprétation et bah, de ce qu'il croit ou pas, quoi, ou du moins ce qui lui parle ou pas. C'est une manière de faire et moi je suis tombée dedans aussi, hein, donc voilà, je peux pas jeter la pierre. Mais du coup, le développement personnel et tout ce dont on parle dans le livre, ou que même moi je parle du coup dans certains de mes contenus, découle en partie du coup de ces courants de pensée et de ces croyances. Il faut le savoir, et là je le dis haut et fort, oui, bien sûr, je suis influencée par mes croyances. Ça, c'est une certitude. Et le développement personnel, quoi qu'on en dise, ce n'est pas une science, c'est très basé sur des intuitions et il n'y a pas de méthodologie à suivre. Pareil, chacun y va un peu à sa propre sauce et C'est la même pour notre livre. J'ai envie de te dire que on te présente pas une méthodologie fiable, on te présente les outils qui nous ont pu nous aider. Alors, ça va aider du coup certaines personnes, ça va clairement ouvrir les esprits, ça j'en suis absolument convaincue. Mais on ne peut pas te garantir que tout va te parler ou que tout, comment dire, tout est à prendre pour toi, tu vois, clairement. Donc ça, au moins, j'espère que c'est bien clair. Donc tout ce qui englobe la connaissance de soi, l'exploration de son potentiel, l'amélioration de sa vie, la réalisation de ses aspirations, rentre dans le cadre du développement personnel. Et c'est important de comprendre et d'avoir conscience de ça, parce que sur les réseaux sociaux, encore une fois, bah, pour ma part, j'ai remarqué qu'on oublie souvent de le préciser en fait. Donc moi, je te parlais des croyances au début de ce podcast. Et le développement personnel, finalement, on peut dire que c'est un système de croyances auquel du coup on adhère ou pas. De plus, du coup, bah, comme l'indique la définition du New Age, c'est éclectique et encore une fois, sous-entendu, bah, tout le monde prend des éléments de certains endroits, de certains courants et les assemble à sa sauce. Donc maintenant, revenons-en à ce fameux Eugène Fersen. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'il est décrit comme un des plus grands enseignants du mouvement du potentiel humain, qui deviendra du coup plus tard le New Age, mais il existe vraiment très peu d'informations sur lui sur Internet. Et crois-moi, j'ai cherché, hein. Mais il est possible de trouver des copies de son livre The Science of Being, la science de l'être en français. Et pour aller plus loin, bah, moi je t'invite en tout cas à aller faire tes propres recherches sur le sujet si ça t'intéresse. Mais apparemment, ce monsieur, il a inspiré quand même beaucoup de personnes au travers de ses travaux. De Gandhi quand même à Tolstoï en passant par Deepak Chopra. Deepak Chopra, lui, par exemple, il est plutôt dans le courant Next Age, donc c'est encore un petit peu différent, qui à l'inverse du New Age, lui, est plutôt porté sur un éveil collectif, sur la réalisation personnelle, l'exploration de soi, mais bref, en gros, il y a plein de catégories et de sous-catégories au New Age, comme la nouvelle pensée, l'anthroposophie, etc. Alors l'anthroposophie, je vais juste faire un bref parenthèse, si tu veux en apprendre plus sur le sujet, parce que c'est quand même un continent dissimulé, je t'invite à aller écouter l'épisode du même nom sur justement le podcast Méthode Choc. C'est un truc de ouf, parce que c'est un mouvement de pensée, c'est une dérive sectaire qui touche notamment la biodynamie, les produits Velleda, c'est anthroposophique, donc c'est-à-dire que quand vous achetez un produit Velleda, vous financez une dérive sectaire, et ça on n'est pas au courant. Bref, je referme la parenthèse, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Donc le souci avec la spiritualité, et peu importe laquelle, c'est qu'elle repose sur des principes, sur des idées, sur des courants de pensée, sans véritable fondement, et parfois même sur l'imaginaire, quand ce n'est pas sur l'intuition. C'est pourquoi, en tout cas, moi, il me semblait nécessaire de rappeler que c'est de l'ordre de la croyance, et pas d'une ou des vérités. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait le faire dans notre livre. Mais est-ce vraiment un problème en soi? Alors j'ai envie de te dire que oui. Et non. Parce que le problème se pose lorsque l'on s'enferme dans ce système de pensée, que l'on n'observe plus à quoi l'on croit et ce que l'on pense. Là, j'ai très envie de te parler de biais cognitif, mais je t'en ferai un podcast complet et aussi, pourquoi pas, sur les croyances. Mais sinon, il y a tous ces sujets aussi qu'on aborde dans bah, mon guide d'éveil à moi-même. Donc, en gros, ces croyances, mais si elles nous font du bien et qu'elles nous aident, pourquoi pas? Pour ma part, en tout cas, c'est notre cas. Pour le cas de Billy Joy, encore une fois, c'est le cas aussi. Il n'existe pas de vérité avec un grand V, et finalement, c'est pas ça le plus important. Cependant, moi, je pense que c'est vraiment super important de faire ce rappel, parce que, pour ma part, en tout cas, c'est par souci de transparence, en vrai. C'est vraiment par transparence, parce que je me rends compte aussi du coup que je t'ai parlé de certaines choses, notamment en ce qui concerne la spiritualité, mais que je n'ai pas été transparente à ce moment-là parce que ça ne l'était pas pour moi. Et en fait, le sentiment personnel et l'intuition, bah, priment sur la raison, sur le mental, lorsque l'on baigne justement dans les croyances. New Age, dans le dev perso, la spiritualité. Du moins, ce qui est vraiment préconisé, du moins, c'est de taire son mental qui est associé à l'ego et d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir à son intuition. Alors là, il faut faire attention parce que c'est à ce moment-là, du coup, qu'on peut vite tomber dans le dogme et qu'on peut oublier sa pensée rationnelle. En fait, l'idée, c'est de garder un certain équilibre, mais la balance entre partir d'un côté ou l'autre peut se faire vraiment super super rapidement. C'est pour ça que vraiment je voulais porter ton attention sur le fait qu'il faut faire attention justement. Donc pour ma part, je crois que le fait de changer son monde intérieur permet de changer son monde extérieur. Je ne crois pas au fait que ce sont nos pensées qui déterminent la personne ou du moins la vie que l'on veut créer. Je pars plutôt du principe que ce sont nos croyances, justement. Et lorsque l'on change de perception, on change aussi de regard sur les choses qui nous entourent. Mais vraiment, je pense que garder son esprit rationnel, c'est vraiment super, super important. Et c'est pour ça que je fais aussi pas mal de prévention ces temps à ce sujet auprès de mes clientes pour éviter justement de tomber dans des croyances de ouf en fait. Genre là je pense par exemple aux flammes jumelles, enfin et là une petite pensée pour une de mes clientes parce que je l'ai sauvée et elle s'est sauvée in extremis justement de tomber dans ces fortes fortes croyances qui peuvent vite partir en couille en vrai, faut être vraiment honnête parce que YouTube et Internet, c'est devenu vraiment le tremplin pour des gourous 2.0 en fait, tout simplement. Donc voilà, faut vraiment faire attention à vous. L'idée, c'est pas de croire à tout ce qui se raconte, mais de choisir consciemment en quoi on croit. Et déjà, réaliser que ce sont des croyances, je trouve que c'est une première étape. Donc maintenant, je vais vraiment plus te parler de la loi d'attraction. Donc, je vais te parler de plusieurs lois différentes, notamment sur lesquelles se base la loi de l'attraction. Et voilà, ça peut te parler ou pas, c'est OK. Donc, la loi de l'attraction, c'est quoi? Alors, elle se base sur le principe que l'on attire ce à quoi l'on pense. Elle a vraiment été mise au goût du jour, donc en 2006, grâce au film Le secret de Rhonda Byrne. Pour toute personne s'intéressant à la spiritualité contemporaine et au développement personnel, on peut dire que c'est un espèce de passage obligé de se renseigner sur ce film ou bien sur le livre du même nom dont je t'ai parlé au tout début de cet épisode. À vrai dire, du coup, il parle de développement et d'amélioration de soi, d'abondance, de fortune, de prospérité, d'éradication des maladies. D'ailleurs, je vais te lire son synopsis juste là. Donc, je cite. Qu'on le nomme pouvoir du subconscient, pensée constructive, visualisation créatrice, imagerie mentale, le secret est basé sur les lois de l'attraction. Le vrai pouvoir, la vraie richesse est en soi. Notre potentiel est sans limite, le secret donne les clés pour le développer. Le secret explique la loi de l'attraction et prouve par de nombreux témoignages qu'elle est vraie et efficace. Tout ce qui se vit à l'intérieur de chacun se reflète à l'extérieur. C'est là que commence la loi de l'attraction. Pour que votre taux vibratoire soit au maximum, il faut gérer ses pensées afin d'augmenter la matière énergétique. Alors déjà là, il y a plusieurs problèmes qui se posent dans ce synopsis. Déjà de une, pardon, des témoignages ne prouvent pas quoi que ce soit. Encore une fois, des opinions, des expériences personnelles ne sont pas des preuves. Donc on ne peut pas dire que la loi de l'attraction éprouvé par des témoignages. Ce n'est pas possible, c'est un non-sens en fait. Sauf que quand on lit ce truc-là, on se dit waouh, génial, ça va m'apprendre plein de trucs, ça va me faire augmenter mon taux vibratoire, je vais attirer à moi fortune et abondance, parce que c'est ce que ça vend après tout. Mais l'autre truc en plus qui me chiffonne, c'est pour que votre taux vibratoire soit à son maximum, il faut gérer ses pensées afin d'augmenter la matière énergétique. Il faut gérer ses pensées. Et ça, c'est extrêmement relatif parce qu'on ne peut pas contrôler ses pensées. Par contre, on peut penser par-dessus ses pensées. Mais bref. Concrètement, il est clair que se rendre compte que c'est plus sympa d'amener son attention sur ce qui est positif et que nos pensées ont un impact non négligeable sur la qualité de notre vie, ça, c'est clair. C'est clair que c'est super important de s'en rendre compte. Mais ce que l'on peut reprocher à ce genre de livre, de film, c'est la culpabilité que l'on peut ressentir suite à sa lecture. En gros, si tu es malade, que tu as un cancer, qu'il t'arrive un accident, que tu te fais violer ou que tu es ruiné, c'est parce que tu ne vibrais pas assez haut. Si tu vis un malheur, c'est à cause de tes pensées. C'est de ta faute, c'est toi qui l'as attiré après tout. Ce sont tes pensées qui l'ont attiré. Alors, ok, nous sommes responsables de comment on interprète les choses de la vie, mais dans ce livre, on te fait bien comprendre que si tu n'appliques pas le secret, c'est ton problème. Après tout, ils t'ont expliqué comment ça fonctionne. Enfin, vraiment plus ou moins. Parce que entre nous, ça nous vend un secret, mais t'arrives au bout du livre, tu demandes toujours ce que c'est, quoi. Donc, pour ma part, en tout cas, je trouve ça vraiment super problématique. En plus, c'est clair que on peut croire que rien n'arrive par hasard dans la vie. Et typiquement, bah, c'est une croyance que je cultive parce que je pars du principe que voilà, il y a sûrement des choses qui font que voilà, il nous arrive des choses et que ça fait sens. Mais d'un autre côté, bah, tout n'a pas forcément de sens non plus. Je pense pas qu'il faut partir dans du dichotomique, c'est-à-dire que noir que blanc, mais qu'il faut voilà, trouver son équilibre là-dessus. Après, voilà, clairement, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. En plus, bah, comme je te dis, la mise en pratique de ce qui est raconté est franchement difficile parce que c'est pas très concret, ça reste super vague en fait. On dirige vers le film, mais si on achète un livre qui nous vend un secret utilisé soi-disant par Vinci, Platon, Victor Hugo, bah t'attends quand même qu'il soit dans le livre et pas un autre endroit que tu dois te procurer en plus en l'achetant. Alors que t'as déjà acheté le bouquin quand même, ou le film. Déjà, ça part mal, donc avec un peu de recul, on peut légitimement se demander si certains discours tenus ne sont pas simplement du bullshit, voire même sectaire. De plus, ce qui me chiffonne encore, c'est qu'il est avancé que tel ou tel scientifique a validé telle théorie, qu'il y a de nombreux témoignages, mais voilà, encore une fois, des expériences de vie personnelle ne sont ni des preuves, ni des sources. Donc en gros, selon Le Secret, si tu reçois des factures, c'est parce que tu y penses. Pense plutôt à l'abondance, à l'argent qui arrive, peu importe le moyen. C'est tellement simple. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Ça voudrait dire qu'un ouragan ou toute autre catastrophe naturelle tuant des milliers de personnes est provoquée par des pensées négatives. Que, encore une fois, si on se fait violer, c'est nous qui l'avons attiré. Que on doit absolument tirer une leçon, en fait, de ça. Pourquoi? Dans quel but? Franchement, il y a de quoi se tirer les cheveux. Hein. Parce que si t'arrives quelque chose de grave dans la vie et que tu commences à obséder sur le fait c'est quoi la leçon, c'est quoi le message, etc., etc., tu peux vite devenir barjot en vrai. Hein. Donc, à la lecture du livre, on peut quand même avoir l'impression qu'on est invité dans un immense château pour la fête du siècle, mais sans l'adresse pour s'y rendre. Et qu'en plus, ce serait notre faute. Bref, vraiment, ça, c'est quelque chose qui me dérange. Alors bon, parfois oui, il nous arrive aussi des trucs assez fous. Penser à quelqu'un et recevoir un message de cette personne juste après. Moi, je suis la première à qui ça m'est déjà arrivé. Penser à une Twingo jaune et en croiser une juste après, ça arrive aussi. Penser à un montant et signer un contrat du même chiffre derrière, ça c'est une anecdote aussi que je pourrais te raconter. Mais elles n'ont pas forcément de sens ni d'explication. Ce sont des bons exemples comme quoi il faut parfois se laisser surprendre par la magie de la vie. Ça, c'est une chose, et c'est clair et net. Mais selon moi, il serait plus juste de dire quand même qu'on attire à soi ce en quoi l'on croit, plutôt que ce en quoi l'on pense. Pourquoi? Bah simplement parce que t'es convaincu d'être une mauvaise personne, bah tu deviendras une mauvaise personne. Après tout, c'est ce que tu crois. Si t'es convaincu d'être timide, tu agiras comme une personne timide. Si tu crois en Dieu, tu verras des manifestations de sa présence, parce que tu vas interpréter des choses de cette manière afin de coller à cette croyance. Et notre cerveau, c'est un filou. Il adore les raccourcis, il raffole de ça. Et en plus de ça, voilà, on a énormément de biais cognitifs qui, pareil, viennent, eux, focaliser son attention sur les choses auxquelles notamment on croit, par exemple. Et en fait, l'autre problème, l'autre truc qui me dérange, c'est qu'on peut vite tomber dans ce que l'on appelle la pensée magique. Et là, ça devient vraiment chaud, et encore une fois, je vais te faire un peu de prévention. En effet, on peut créer des obsessions et transformer notre vie en véritable cérémonial quand on tombe dans ce genre de croyances. En fait, on va vivre dans le doute permanent. On va essayer de contrôler ses pensées, ce qui est même pas difficile, c'est impossible. Je te dis de ne pas penser à un dromadaire orange. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu penses à un dromadaire orange. C'est pas possible de ne pas penser à quelque chose. Donc, on pense inconsciemment, mais par contre, comme je te l'ai expliqué, on peut penser par-dessus nos pensées, et c'est ce qui s'appelle la métacognition. Et pour rappel, la métacognition, selon la définition d'Universalis, c'est, je cite, « l'ensemble des processus, des pratiques et des connaissances permettant à chaque individu de contrôler et d'évaluer ses propres activités cognitives, c'est-à-dire de les réguler ». Donc en fait, la pensée magique s'active lorsque l'on pense que si on ne fait pas tel rituel ou que nous pensons telle chose, il va nous arriver malheur, en fait, tout simplement. Et c'est très culpabilisant parce que si on est dans ce système, on pense que si on pense à quelque chose de bon ou de mauvais, cela va nous arriver ou arriver aux autres en souhaitant du mal à quelqu'un, par exemple. On retrouve beaucoup, 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 et peut-être que ça va te parler, ce mécanisme chez les enfants. Si j'ai raté cet entretien parce que j'ai pas mis mon chemisier porte-bonheur, Si j'ai fait un cauchemar, c'est parce que je n'avais pas mon doudou. Bref, c'est vraiment très ritualisé et c'est très connecté à une forme de superstition. Et bah, ça permet aussi, pourquoi pas, de se déculpabiliser en quelque sorte. Mais ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que ce genre de mécanisme à l'œuvre reflète une profonde angoisse et par le même coup un intense besoin de se sentir rassuré en croyant que ses pensées ont une influence directe sur le monde qui nous entoure. On pense inconsciemment qu'on est capable de contrôler la réalité. Nous pensons agir sur la manière dont nous voyons le monde parce que c'est une question d'interprétation et on peut devenir très fort à ça. Par exemple, trouver du sens à une agression permet de se reconstruire typiquement. Je ne dis pas que tout arrive pour une bonne raison, par exemple si on subit une agression. Celle-ci n'a clairement pas de sens au-delà de celui qu'on lui donne. C'est-à-dire que demain tu subis une agression, tu vas peut-être lui trouver du sens, mais parce que ça te fait du bien, parce que ça t'aide à te reconstruire. Mais de base, celle-ci n'en a pas forcément. Donc en fait, penser uniquement que penser à la richesse la fera venir à toi, je suis sincèrement désolée, mais ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, il n'y a que l'action dans la réalité qui peut faire bouger les choses dans cette même réalité. La force de la pensée, ça ne suffit pas. Et c'est une fausse impression de contrôle, très clairement. Ça peut devenir vraiment très très handicapant sur le long terme. Parce qu'on a l'impression, du coup, si les choses ne fonctionnent pas, que en fait, le problème, c'est vous, que c'est vous qui n'applique, enfin que c'est toi qui n'applique pas les choses comme il faut. Et là, franchement, j'ai envie de faire un gros big up à tous ces coachs en manifestation qui vendent des programmes ultra chers, qui peuvent être, ok, certes, intéressants sur le fond, parce que ça peut faire réaliser plein de choses, mais sur la forme, la manifestation, j'ai quand même des sacrés doutes. Et pourtant, je pourrais te dire que j'ai manifesté des choses dans ma vie, hein, manifesté mon livre, manifesté tant de chiffres d'affaires. Mais c'est une question de perception, encore une fois, parce que je pourrais dire que j'ai manifesté mon livre et ma maison d'édition, mais finalement, ce qui a changé les choses, c'est peut-être aussi le fait qu'on s'est sorti les doigts du cul et qu'on a envoyé un projet à une maison d'édition et que ça a matché, en fait. Tout dépend comment tu vois vraiment les choses. Et en fait, là, ça devient problématique, notamment, c'est si cette pensée magique se transforme en TOC, au travers, bah, comme je te disais, de superstitions, de troubles obsessionnels, parce que oui, ça peut devenir pathologique. Alors, attention. Mais grâce à ce que je te raconte, j'espère que ça va te permettre de te rendre compte de ce fonctionnement et que tu reconnaisses peut-être que cela te permet de t'aider à lutter contre tes angoisses, pourquoi pas, tu vois. Parce que c'est tout à fait possible de reconnaître certains de nos actes comme irrationnels et être ok avec ça, voilà, c'est très personnel, mais ça fait avancer. Tout ça pour te dire que tu ne vas pas réaliser tes rêves simplement en les imaginant. Tu ne vas pas devenir la femme que tu vas incarner simplement en la visualisant. Ça peut certes t'aider en termes motivationnels, mais c'est pas ça qui va te faire devenir la femme que tu veux être. Tu ne vas pas incarner ta véritable nature simplement en y pensant. Et ça, c'est le sous-titre de notre livre, c'est le fait d'incarner sa véritable nature. Et clairement, ce n'est pas que en l'imaginant, en le pensant, que tu vas le devenir. Parce qu'il va falloir engager des actions, il va falloir provoquer le destin, entre guillemets, comme on l'a fait typiquement pour notre livre, ce que je te disais juste avant. En prenant les choses en main, en prenant des décisions, en faisant des choix dans ta vie, en faisant le travail dans la vie réelle. Et surtout en passant à l'action. Vraiment, il n'y a pas de secret en fait. Si tu penses Si tu réfléchis pendant des mois à ce que pourrait être ta vie si tu démissionnais, mais que tu démissionnes jamais, ça va changer que dalle. Donc oui, ça demande du courage. Parfois, il faut porter ses coronets ou ses ovaires. Et oui, ça fait peur. Mais j'ai envie de te dire que le courage, c'est avoir peur et c'est sauter quand même. Donc en fait, si tu veux devenir abondante, il va pas suffire que tu te répètes des affirmations positives. Ça va pas suffire de te dire que tu es ab je suis abondante. Ça va peut-être influencer tes croyances, ça va peut-être influencer ta perception des choses et donc te permettre de passer à l'action. Mais concrètement, ce ne sont pas ces affirmations qui vont changer quoi que ce soit. Le seul moyen d'attirer les choses à soi, c'est de les provoquer. Donc, il est évident que ton état d'esprit va influencer toute ta vie. Ta manière de voir les choses, ta manière de te considérer, ta manière de penser. Ça va t'influencer, forcément. Et dans notre système de croyances, bah, en tout cas, enfin, je parle dans notre système de croyances parce que c'était comme ça qu'on l'avait écrit dans le livre, mais du moins dans mon système de croyances, je crois que l'énergie que l'on met dans les choses ont leur importance. Et ça, c'est une notion qu'on retrouve dans la loi de l'attraction avec l'idée des vibrations que l'on émet, avec la puissance de l'intention. Alors pour ma part, par contre, les intentions, j'y crois, dans le sens où c'est quelque chose qui me permet de poser un cadre, pour ma part. Donc voilà, déjà pour ça. Donc en fait, pour conclure sur la loi de l'attraction, bah faut pas attendre après elle, en fait, pour créer la vie de tes rêves. Faut pas croire que si tu suis un programme sur la manifestation, sur la loi de l'attraction, qui te vend la liberté financière, la liberté personnelle, l'épanouissement personnel, que c'est ce programme qui va t'aider à faire changer les choses. Non, c'est toi les actions que tu vas engager qui vont, elles, oui, faire changer les choses. Donc en fait, tu vas pas attirer à toi ce que tu penses, mais tu vas attirer à toi ce en quoi tu crois. Si tu crois que tu es le genre de femme qui peut devenir millionnaire, bah, il n'y a pas de doute, je pense, que tu vas activer en toi un sacré feu, une certaine certitude, et que tu auras beaucoup plus de chances de le devenir par rapport à une personne qui va penser qu'elle n'a aucune chance de devenir millionnaire, ou encore une fois, qui le pense. Simplement, si tu engages des actions parce que tu y crois, là par contre oui, ça fait une grosse différence. Si tu crois que tu es le genre de femme qui peut accomplir de grandes choses, tu vas mettre en place des actions et accomplir des grandes choses. Si tu crois que tu es le genre de femme capable de créer un empire ou bien simplement de bâtir son business à partir de rien, tu le feras. Car en y croyant, tu l'es déjà. Par contre, si tu penses être le genre capable de grandes choses, d'être le genre de femme capable de grandes choses, c'est déjà pas mal, mais est-ce que tu ressens aussi un peu la différence de si tu penses que t'es une bonne à rien? Ça met pas la même énergie pour enclencher des actions, justement. Donc encore une fois, penser c'est bien, mais agir c'est mieux. Cultiver sa conviction, ça l'est aussi encore plus. On attire peut-être, probablement, à nous, des personnes ou des événements qui sont là pour nous faire grandir. Ou peut-être que simplement il y a des événements et des personnes qui arrivent dans nos vies et qu'on en tire des choses positives, parce qu'on est sur cette planète aussi pour tirer des choses positives. Mais c'est à toi de te faire ton avis quand même là-dessus, sur tout ce que je te raconte. Et j'espère pas avoir mis trop le bordel dans tes croyances et dans ta tête. Le but, c'est pas... Le but, c'est vraiment de t'ouvrir les yeux. Mon intention, c'est ça. C'est vraiment de remettre un peu l'église au centre du village. Et je sais que c'est un discours un peu à contre-courant de tout ce qu'on voit actuellement. Mais bon, si tu suis mes stories, tu sais que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur ces temps. Et n'hésite pas à réfléchir quand même quand tu rencontres des choses, à voir si ça te parle, si ça te parle pas, si ça te parle pourquoi, est-ce que c'est fondé. Voilà. Cultive ton esprit critique, c'est super important. Donc, maintenant, je vais juste rapidement te parler justement des lois de l'univers. Alors ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je vais t'en citer quelques-unes. Donc, par exemple, on a la loi de la vibration. Donc, j'obtiens ce à quoi je pense le plus, que je le désire ou non. Alors là, typiquement, on est dans la croyance de la loi de l'attraction, hein. Et encore une fois, bah voilà, moi j'attends qu'on me le prouve. Mais pas qu'on me le prouve parce que on l'a vécu, tu vois. Voilà. La loi de la cause à effet, alors celle-ci, je l'aime bien. Tout ce que tu expérimentes dans la vie est un résultat. J'aime bien la loi de la cause à effet parce que je pars du principe que ce que l'on sème aujourd'hui, bah, c'est ce qui va pousser demain. Donc à toi de voir si tu veux planter des orties ou bien des tournesols, tu vois. Donc celle-ci, ouais, pourquoi pas. Après, il y a la loi de l'équilibre. Donc l'abondance, c'est donner avec générosité et être excellent à l'heure de recevoir. Pourquoi pas. La loi de l'ordre. L'ordre de la vie correspond à être, faire, avoir. Là, pareil, je trouve que celle-ci, elle a quand même du sens, parce que c'est un peu ce que je te raconte aussi ici, donc ça vient valider mes croyances. Le fait qu'il faut bah, d'abord être, ensuite faire, pour finir par obtenir. Donc, c'est-à-dire, ça suit un peu le cheminement que je t'expliquais tout à l'heure. Donc déjà, te sentir comme une girl boss te permet d'engager des actions de girl boss. Et d'obtenir, d'avoir une vie de girl boss, par exemple. Ensuite, on a la loi de l'action. Je fais une chose comme je fais tout le reste. Ouais, bon, voilà. La loi du moindre effort. Alors, celle-ci, c'est s'efforcer génère du stress et consomme ton énergie. Quelque chose qui est bien loin du fait de vivre avec abondance. Bon, celle-ci, elle me chiffonne un peu parce que, en gros, ça explique. Que en gros, plus vite on essaie et on échoue, plus vite on trouve comment ça marche et si ça marche. Voilà. Après, en soi, je suis d'accord avec ça, dans le sens où il faut vraiment se faciliter la vie au maximum. Mais attention, parce que tu peux vite tomber dans l'inaction avec cette loi du moindre effort. C'est sûr que parfois, t'as pas forcément besoin de vendre ton âme au diable pour obtenir quelque chose. Mais encore une fois, enfin, je veux dire, entre la loi du moindre effort et le passage à l'action, je pense que celui qui obtient le plus de résultats, ça reste le passage à l'action, quoi. Enfin bref, il y en a pas mal comme ça. Il me semble, si je me trompe pas, qu'il y en a une dizaine ou une douzaine, mais vraiment c'est super compliqué en vrai de trouver des infos, c'est un peu chiant. Mais bah voilà, s'il n'y a pas beaucoup d'infos, c'est simplement que ces lois, elles ont été écrites par une personne qui s'est dit, tiens, un peu comme le mec qui a écrit la Bible en fait peut-être, et s'est dit que ça pourrait aider les gens, mais finalement ça a quand même, ça a quand même ses limites quoi. Donc, je vais pas te mentir qu'en relisant le chapitre, je suis quand même assez contente qu'il soit pas dans le livre. Parce qu'encore une fois, ce qui me chiffonne, c'est le fait de présenter des choses sans fondement. J'avoue que ouais, ça c'est vraiment le truc qui m'embête le plus. Parce que j'ai l'impression d'avoir une certaine responsabilité en fait dans les choses que je raconte. Et le truc pour lequel je m'en suis quand même un peu voulu. C'est vraiment de ne pas avoir mis la même rigueur entre l'entraînement, la nutrition et les informations que je donne à ce niveau-là, et le dev perso, en fait. Dev perso, la spiritualité. Donc ça, c'est quand même, j'avoue, un petit regret, mais j'ai envie de vous dire qu'on fait tous des erreurs. Je pense que le principal, ça reste aussi de les admettre, de les reconnaître, de prendre un peu ce qu'elles ont à nous donner, ces erreurs-là. Et maintenant, l'idée, c'est de ne plus tomber dans ces pièges. Alors, j'espère que cet épisode, qui n'était pas tellement structuré, un peu long, et dans lequel j'ai quand même voilà, pas mal parlé, t'a permis quand même d'ouvrir un peu ton esprit, de te reconnecter à ta rationalité. Encore une fois, je t'en supplie, même si... C'est beaucoup plus facile de croire en des choses sans les remettre en question. Remets-les en question lorsque l'on te vend quelque chose comme une vérité. Essaye d'aller chercher, rends-toi curieuse. Et puis bah après voilà, si t'as envie d'y croire, t'y crois. Mais n'oublie pas une chose, c'est que toutes nos croyances ne sont pas forcément là pour nous faire du bien, malgré ce qu'on peut penser. Bien sûr, il y en a certaines. Enfin, je pense que l'intention de base de nos croyances, c'est toujours de nous faire du bien, de nous protéger, parce que notre cerveau est là pour ça. Mais que sur le long terme, c'est pas forcément le cas. Alors voilà, je vais terminer là-dessus. En tout cas, j'ai vraiment apprécié l'exercice de t'enregistrer à nouveau un épisode de podcast. Je sais que c'est un peu long pour ce retour en force, mais... Voilà, j'espère encore une fois qu'il aura pu t'aider. Je te souhaite une excellente journée, soirée, peu importe. Et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao!
Salut, c'est Gaïdic du montage. Je rajoute juste une petite note à la fin. Je parlais du coup des livres qui ont été précurseurs du New Age, mais entre-temps, j'ai trouvé d'autres trucs, c'est-à-dire qu'il y a Monsieur Phineas Kimby, qui est un monsieur qui a vécu entre les années 1806 et 1866, si je ne me trompe pas, qui lui a vraiment été un des gros précurseurs de la pensée New Age. Et de la nouvelle pensée, dans le sens où lui, sa croyance, c'était que justement, c'était les croyances qui faisaient en sorte qu'on tombait malade ou alors qu'on pouvait guérir, parce que lui, il a guéri de la tuberculose par la force de la pensée, et du coup, il s'est mis à répandre, comment dire, ce fait. Et derrière, du coup, ça a influencé notamment ses travaux. Voilà, c'était un monsieur qui était quand même très suivi, donc je vous disais que la loi de l'attraction, c'était quand même un concept assez jeune. Et effectivement, en fait, on pourrait dire que ça n'a pas plus de 200 ans. Donc voilà, la chose que j'ai oublié de vous dire également, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai raconté ici, mais que vous êtes quand même ici jusqu'au bout, bah franchement, chapeau déjà. Et sinon, on en débat clairement, mes messages privés sont ouverts. Si vous voulez m'envoyer voilà, un DM ou quoi, qu'on en discute, c'est toujours avec grand plaisir. Mes messages sont ouverts. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao!